Le chant du pardon.
Le roi, homme en tête de nouveau, était seul à cheval avec le maréchal, qui lui avait coiffé une simple cervelière de mailles. Il n'allait pas courir de si grands dangers qu'il lui fallut revêtir un haroi de bataille. Audrem n'est pas de ces gens qui font grande ostentation guerrière quand il n'y a pas lieu. S'il plaisait au roi d'arborer son haut ma couronne pour assister à quatre décollations, c'était son affaire. Tout le reste de la compagnie, du plus grand seigneur au dernier archer, irait à pied jusqu'au lieu du supplice. Le roi en avait décidé ainsi. Car il est homme qui perd beaucoup de temps à régler lui-même les parades dans le menu, aimant à faire nouveauté de détails, au lieu de laisser agir selon l'usage de toujours. Il n'y avait plus que trois charrettes, parce que, d'ordre en contre-ordre mal compris, on en avait renvoyé une de trop. Tout auprès se tenait Guillaume. Eh bien non, ce n'est pas Guillaume à la Coche, j'ai confondu. Guillaume à la Coche est un valet de la chambre, mais c'est un nom qui y ressemble. La gauche, le gauche, la tanche, la planche. Je ne sais même pas s'il se prénomme Guillaume, c'est d'ailleurs de petite importance. Donc se tenait auprès le roi des ribauds et le bourreau improvisé, blanc comme un navet d'avoir séjourné en cachot. Un maigrelet, m'a-t-on dit, et pas du tout tel qu'on aurait attendu un mécréant coupable de quatre meurtres. Et puis le capucin qui tripotait comme ils le font toujours sa cordelière de chanvre. Tête nue et les mains liées derrière le dos, les condamnés sortirent du donjon. Le comte d'Harcourt venait le premier, dans son surcot blanc que le roi lui avait déchiré à l'emmanchure, la chemise avec. Il montrait son énorme épaule, rose comme coigne, et son sein gras. On finissait d'affûter les haches sur une meule dans un coin de la cour. Personne ne regardait les condamnés, personne n'osait les regarder. Chacun fixait un coin de pavé ou de mur. Qui aurait osé, sous l'œil du roi, un regard d'amitié ou seulement de compassion pour ces quatre-là qui allaient périr? Ceux-mêmes qui se trouvaient à l'arrière de l'assistance gardaient le nez baissé de peur que leurs voisins ne puissent dire qu'on avait vu sur leur figure. Nombreux, ils étaient à blâmer le roi, mais de là à le montrer. Beaucoup d'entre eux connaissaient le comte d'Harcourt de longue acquaintance, avaient chassé avec lui, jouté avec lui, dîné à sa table, qui était copieuse. Pour l'heure, pas un ne semblait se souvenir. Les toits du château et les nuages d'avril leur étaient chose plus captivante à contempler. Si bien que Jean d'Harcourt, tournant de tous côtés ses paupières plissées de graisse, ne trouvait pas un visage auquel accrocher son malheur, pas même celui de son frère, surtout pas celui de son frère. Dame, une fois son gros aîné raccourci, qu'allait décider le roi de ses titres et de ses biens? On fit monter dans la première charrette celui qui était encore pour un moment le comte d'Harcourt. Ce ne fut pas sans peine, un quintal et demi et les mains liées. Il fallut quatre sergents pour le pousser, le hisser. Il y avait de la paille disposée dans le fond de la charrette, et puis le billot. Quand Jean d'Harcourt fut juché, il se tourna tout dépoitraillé vers le roi comme s'il voulait lui parler. Le roi, immobile sur sa selle, vêtu de mailles, couronné d'acier et d'or, le roi justicier, qui voulait bien faire apparaître que toute vie au royaume était soumise à son décret, et que le plus riche seigneur d'une province, en un instant, pouvait n'être plus rien si tel était son vouloir. Et d'Harcourt ne prononça mot. Le sire de Graville fut mis dans la seconde charrette, et dans la troisième on fit grimper ensemble Maubuée de Mennemar et Colin Doublel, l'écuyer qui avait levé sa dague sur le roi. Celui-ci paraissait dire à chacun d'eux « Souviens-toi du meurtre de Monsieur d'Espagne, souviens-toi de l'auberge de la Truie qui file. » Car toute l'assistance comprenait que, sinon pour d'Harcourt, en tout cas pour les trois autres, c'était la vengeance qui commandait cette brève et bien torve justice. Punir des gens à qui l'on a donné publiquement rémission, il faut pouvoir faire état de nouveaux griefs, et bien patents, pour agir de la sorte. Cela eût mérité remontrance du pape, et de plus sévère, si le pape n'était pas aussi faible. Dans le donjon, on avait méchamment poussé le roi de Navarre au plus près d'une fenêtre pour qu'il ne perdît rien du spectacle. Le Guillaume, qui n'est pas la Coche, se tourne vers le maréchal d'Audrehem. Tout est prêt. Le maréchal se tourne vers le roi. Tout est prêt. Le roi fait un geste de la main et le cortège se met en route. En tête, une escouade d'archers, chapeaux de fer et gambisons de cuir, le pas alourdi par leurs gros houseaux. Ensuite, le maréchal à cheval et visiblement sans plaisir. Des archers encore et puis les trois charrettes. Et derrière, le roi des ribauds, le bourreau maigrelet et le capucin crasseux. Et puis le roi, droit sur son destrier, flanqué des sergents de sa garde étroite, et enfin toute une procession de seigneurs en chaperon ou en chapeau de chasse, manteau fourré ou cotte hardie. La ville est silencieuse et vide. Les Rouennais ont prudemment obéi à l'ordre de se tenir dans leur maison. mais leurs têtes s'agglutinent derrière leurs grosses vitres verdâtres, soufflées comme des culs de bouteille. Leurs regards se coulent par le bord entrebâillé de leurs fenêtres quadrillées de plomb. Ils ne peuvent pas croire que c'est le comte d'Harcourt qui est dans la charrette, lui qu'ils ont vu souvent passer dans les rues, et ce matin encore en superbe équipage. Pourtant, son embonpoint le désigne assez. C'est lui, je te disons que c'est lui. Pour le roi, dont le home passe presque à hauteur du premier étage des maisons, ils n'ont point de doute. Il fut longtemps leur duc. C'est lui, c'est bien le roi. Mais ils n'auraient pas été frappés d'une crainte plus grande s'ils avaient aperçu une tête de mort sous la ventaille du casque. Ils étaient mécontents, les Rouennais. Terrifiés, mais mécontents. Car le comte d'Harcourt les avait toujours soutenus, et il l'aimait bien. Alors il chuchotait « Non, ce n'est pas bonne justice. C'est nous qu'on atteint. » Les charrettes cahotaient, la paille glissait sous les pieds des condamnés qui avaient peine à garder leur aplomb. On m'a dit que Jean d'Harcourt, pendant tout le trajet, avait la tête renversée en arrière et que ses cheveux s'écartaient sur sa nuque qui faisait de gros plis. Que pouvait penser un homme comme lui en allant au supplice et en regardant la coulée de ciel entre les pignons des maisons ? Je me demande toujours ce que peuvent avoir dans la tête les condamnés à mort pendant leurs derniers moments. Est-ce qu'ils se reprochaient de ne pas avoir assez admiré toutes les belles choses que le bon Dieu offre à nos yeux tous les jours ? Ou bien songeaient-ils à l'absurdité de ce qui nous empêche de profiter de tous ces bienfaits ? La veille, ils discutaient d'impôts et de gabelles. Ou bien se disaient-ils qu'il y avait bien de la sottise dans son affaire, car il était prévenu. Son oncle Godefroy l'avait fait prévenir. Repartez-vous-en aussitôt. Il avait tôt éventé le piège, Godefroy d'Harcourt. Ce banquet de carême sent le guet-apens. Si seulement son messager était parvenu un tout petit moment plus tôt. Si Robert de Loris ne s'était trouvé là, au bas de l'escalier. Si, si. Mais la faute n'était pas au sort, elle était à lui-même. Il aurait suffi qu'il fausse accompagner au dauphin. Il aurait suffi qu'il ne cherchât pas de mauvaises raisons pour céder à sa gourmandise. Je partirai après le banquet, ce sera la même chose. Les grands malheurs des gens, voyez-vous, Archambault, leur surviennent souvent ainsi pour de petites raisons. Pour une erreur de jugement ou de décision dans une circonstance qui leur semblait sans importance et où ils suivent la pente de leur nature. Un petit choix de rien du tout, et c'est la catastrophe. Ah, comme ils voudraient alors avoir le droit de reprendre leurs actes. Remonter en arrière à la bifurcation mal prise. Jean d'Harcourt bouscule Robert de Loris, lui crie « Adieu messire », enfourche son gros cheval et tout est différent. Il retrouve son oncle, il retrouve son château, il retrouve sa femme et ses 9 enfants, et il se flatte tout le reste de sa vie d'avoir échappé au mauvais coup du roi. À moins, si c'était son jour marqué, qu'en s'en repartant il ne se soit rompu la tête en se cognant à une branche dans la forêt. Allez donc pénétrer la volonté de Dieu. Et il ne faut pas oublier tout de même ce que cette méchante justice finit par effacer, que d'Harcourt complotait vraiment contre la couronne. Eh bien, ce n'était pas le jour du roi Jean, et Dieu réservait à la France d'autres malheurs dont le roi serait l'instrument.